La seconde près, il est 23h à Washington, 4h à Dakar, 5h à Paris. Vous écoutez RFI et je vous laisse avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. À la une ce matin, une semaine après son élection à la présidentielle américaine, Donald Trump est reçu aujourd'hui à la Maison Blanche par Joe Biden, l'actuel président qui a promis une transition pacifique. Une décision historique pour l'Irak, un sous-traitant de l'armée américaine condamné à verser 42 millions de dollars à des Irakiens. Ils avaient été détenus à Abu Ghraib, prison tristement connue pour la torture. Dans ce journal. Au sommaire aussi, plus de bateaux de pêche européens dans les eaux sénégalaises à partir de dimanche soir. L'accord entre Bruxelles et Dakar n'a pas été renouvelé. La faute, selon l'UE, à des défaillances dans la lutte contre la pêche illicite. Et puis les yeux rivés sur leur tablette ou leur console de jeu, les enfants français ne sortent plus assez, en particulier depuis l'épidémie de Covid. C'est ce qui ressort d'un rapport du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge. 4 ans après l'avoir quitté, Donald Trump retourne aujourd'hui à la Maison Blanche, dont il prendra les clés le 20 janvier prochain. Le président élu est invité par Joe Biden, son successeur et prédécesseur, qui a promis la semaine dernière une transition pacifique. Les explications à Washington pour RFI de Guillaume Nodin.
Un transfert pacifique du pouvoir, c'est ce que Joe Biden a promis dans sa première prise de parole publique depuis la victoire indiscutable de Donald Trump. Et c'est ce qu'il a l'intention de donner en recevant celui qui est à la fois son prédécesseur et son successeur. Une situation rarissime, étrange et sans doute désagréable pour le président sortant, étant donné ses relations avec Donald Trump. Depuis des années, le chef républicain ne parle jamais de Joe Biden autrement qu'en parlant de Joe l'escroc et de sa famille criminelle, ou de Joe l'endormi. La dernière fois qu'il s'était parlé en public, c'était au mois de juin, au cours d'un débat télévisé qui avait montré au grand jour les faiblesses et le vieillissement de Joe Biden et qui avait précipité son retrait après plusieurs semaines de déni crépusculaire. Mais Joe Biden va devoir faire bonne figure. Donald Trump sera donc bel et bien accueilli dans le bureau ovale en présence de caméras, car le message que veut faire passer l'administration Biden, c'est que malgré les circonstances exceptionnelles et malgré l'historique entre les deux hommes, cette tradition américaine sera bel et bien respectée, contrairement à ce qu'il s'était passé en 2020 quand Donald Trump contestait la victoire de Joe Biden. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Et c'est donc avant d'être reçu par Joe Biden que Donald Trump a continué de dévoiler hier soir le casting de son administration, avec notamment la nomination de son principal soutien durant sa campagne, Elon Musk, à la tête d'un nouveau ministère, celui de l'efficacité gouvernementale. Il le partagera avec Vivek Ramaswamy. Pete Hegseth, présentateur sur Fox News, militaire de formation, occupera quant à lui le poste de secrétaire à la Défense. La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, obtient le ministère de la Sécurité intérieure. Mike Huckabee est nommé en tant qu'ambassadeur en Israël et John Ratcliffe à la tête de la CIA. Au Proche-Orient, le Hamas accuse Washington d'être complice, je cite, d'une guerre génocidaire, après que les États-Unis ont estimé hier que l'État hébreu, qui a annoncé dans la journée l'ouverture d'un nouveau point de passage dans la bande de Gaza, n'enfreignait pas le droit américain concernant l'aide humanitaire. Le Pentagone a quant à lui annoncé hier des frappes contre des milices soutenues par l'Iran en Syrie, en réponse au lancement d'une roquette contre les troupes américaines déployées dans le pays. Une décision historique rendue hier, un tribunal fédéral américain a condamné un sous-traitant de l'armée américaine à verser 42 millions de dollars à 3 anciens détenus d'Abu Ghraib, une prison irakienne dans laquelle les détenus étaient victimes, je cite, de tortures, traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les précisions à Bagdad pour RFI de Marie-Charlotte Roupie.
Nous avons décroché une grande victoire, particulièrement parce que cette victoire arrive après 16 ans d'attente.
En conférence de presse, Salah El-Ejaili, l'un des plaignants irakiens, cherche ces mots.
Enfin, nous voyons une justice pour quelques victimes d'Abu Ghraib.
C'est une première. Depuis le 11 septembre 2001, aucune procédure judiciaire contre un sous-traitant militaire américain n'avait abouti à une condamnation. Catherine Gallagher, avocate du Centre américain des droits constitutionnels qui a porté le dossier, évoque un jour historique.
Je pense que ce dossier envoie un message clair aux entreprises et aux sous-traitants du gouvernement en particulier qu'ils peuvent être et seront tenus pour responsables de toute violation de la loi.
Cette condamnation crée donc un précédent. À Abu Ghraib en Irak, Shaker Horan, chef de la tribu de l'un des plaignants, est abasourdi.
La plupart des gens n'y croyaient pas. Personne ne pensait que ce dossier allait aboutir. Bien sûr, beaucoup de gens vont essayer de mener des actions en justice.
Le sous-traitant militaire condamné peut encore faire appel, mais 21 ans après les révélations choquantes des tortures infligées aux prisonniers irakiens, ici, c'est déjà une victoire immense. Marie-Charles Troupy, Bagdad RFI.
Les États-Unis interdisent tous leurs vols civils avec Haïti et pour un mois. Décision après que 3 avions ont essuyé des tirs en début de semaine lors de leur atterrissage à Port-au-Prince, la capitale contrôlée à 80% par les gangs armés. Une annonce qui relance le débat sur la difficile sécurisation de l'aéroport, d'autant plus qu'après sa fermeture hier à cause de nouveaux coups de feu, la direction a demandé à certains employés de ne pas revenir avant le 18 novembre. Écoutez Diego Darin, chercheur au Crisis Group et spécialiste de Haïti.
Il y a eu des grands travaux qui ont été entrepris depuis plus ou moins avril-mai pour sécuriser les alentours, le périmètre des alentours de l'aéroport, notamment le côté nord de l'aéroport qui avait été utilisé par différents gangs pour se positionner dans des maisons hautes à un deuxième étage, premier ou deuxième étage, pour arriver à cibler la piste d'atterrissage. Plusieurs centaines de maisons qui ont été détruites sur ce côté nord de l'aéroport, mais c'est les alentours immédiats de l'aéroport.
Et qu'est-ce qui pourrait être fait en plus alors si on ne peut pas sécuriser à 2-3 km de l'aéroport? Quelle option reste sur la table?
Essayer de sécuriser les quartiers, que sont les zones que les avions doivent survoler pour pouvoir atterrir dans l'aéroport international de Port-au-Prince. Mais c'est une tâche très compliquée, notamment pour Cité Soleil, qui est une zone qui est contrôlée par des gangs depuis de très nombreuses années. Et dans certaines zones, les forces de sécurité n'ont pas réussi à pénétrer pendant plusieurs années.
Des propos recueillis par Nicolas Roca. Il est 5h07 à Paris, 4h07 à Dakar. Les bateaux battant pavillon européen ne vont plus pêcher dans les eaux sénégalaises à partir de dimanche soir minuit. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Pisani, après le non-renouvellement d'un accord entre Bruxelles et Dakar, la cause des défaillances dans la lutte contre la pêche illégale qui avaient été notifiées à Dakar et qui n'ont pas été réparées. Explication d'Alexis Bédu.
C'était un premier carton jaune. Le 27 mai dernier, Bruxelles notifie les autorités sénégalaises qu'il y a des manquements et des progrès à faire dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, des défaillances sur la traçabilité du poisson notamment. Notification faite, il doit y avoir des signaux que des efforts sont faits, que des améliorations sont mises en œuvre. Or, il n'y a pas eu ces signaux d'après Bruxelles, d'où ce non-renouvellement de l'accord. Ça ne serait pas cohérent, explique l'ambassadeur de l'UE au Sénégal, Jean-Marc Pisani. 18 bateaux espagnols et français ne pêcheront donc plus dans les eaux sénégalaises. Via cet accord, ils étaient autorisés à pêcher 10 000 tonnes de poissons par an. En contrepartie, l'Union européenne a versé 10 milliards de francs CFA, soit 12 millions d'euros depuis 2019. Cette situation de blocage n'est pas exceptionnelle puisqu'entre 2006 et 2014, déjà, il n'y avait pas d'accord de pêche entre Bruxelles et Dakar.
Alexis Bédu. En Espagne, 2 semaines après les inondations qui ont fait au moins 223 morts dans la région de Valence, les écoles des villes touchées vont rester fermées aujourd'hui alors que la région se prépare à de nouvelles pluies torrentielles. Certaines parties de Valence et la Catalogne dans le nord-est du pays ont été placées en vigilance orange jusqu'à demain. Alors que la COP29 continue à Bakou en Azerbaïdjan, cette question, comment adapter nos villes au changement climatique? La mairie de Paris s'est penchée sur la question. Elle a présenté hier un vaste plan climat, 400 mesures avec des objectifs ambitieux, végétaliser, rénover, piétoniser ou encore inciter à rouler en vélo dans tous les arrondissements et notamment les quartiers populaires. Margot Ratézic.
Paris sous des pics à 50 degrés, c'est ce que prédisent les scénarios les plus pessimistes d'ici 25 ans. Et les premiers touchés, ce sont bien souvent les habitants des quartiers populaires, comme l'explique Mélodie Tonoli, adjointe à la mairie chargée de la politique de la ville.
En hiver, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas se chauffer correctement. Et l'été, ils sont plus touchés au moment des vagues de chaleur, notamment parce que les logements sont plus petits, parce qu'il y a moins d'espaces verts dans les quartiers populaires à Paris.
Ce quatrième plan climat entend donc réduire réduire les inégalités sociales et environnementales. Un programme inspiré de mesures déjà adoptées dans d'autres villes du monde. Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris en charge du plan climat.
Je pense notamment à des villes comme Barcelone, qui a pris des décisions très, très importantes en termes d'urbanisme, en termes de désimperméabilisation.
L'exemple parisien s'exporte lui aussi, comme à Londres, ajoute Dan Lert.
La possibilité de se baigner dans la Seine, la stratégie de dépollution du fleuve, de restauration écologique du fleuve, inspire des villes comme Londres, qui ont envie de faire la même chose, par exemple sur la Tamise.
La transition écologique à Paris se veut donc collaborative, avec un objectif en ligne de mire, atteindre la neutralité carbone en 2050.
Margot Ratézic. Végétaliser, inciter à faire du vélo, voilà une bonne idée pour faire sortir nos enfants, surtout après la publication de ce rapport alarmant par le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge. Les jeunes Français sont de plus en plus sédentaires. Cette sédentarité s'est même accentuée depuis la crise sanitaire du Covid-19 et les confinements. Les explications d'Olivier Charman.
L'univers et le terrain de jeu des enfants français est désormais leur maison ou leur chambre. Des enfants qui grandissent entre quatre murs, en quelque sorte, loin de la nature, loin de l'extérieur. C'est une génération d'enfants de l'intérieur, plus habiles pour surfer sur une tablette ou un téléphone que de jouer dehors. Dans son rapport très dense, le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge s'inquiète de cette situation. La montée du sentiment d'insécurité apparaît comme l'une des causes de la sédentarité des enfants, comme l'explique la présidente de cette instance, Sylviane Giampino.
Il y a un rapport anxieux à l'extérieur des familles qui craignent plusieurs dangers. Le premier, c'est la mauvaise rencontre, les mauvaises fréquentations. Le second, c'est une atteinte corporelle à leurs enfants, l'agression. Pour les parents, la maison est devenue une sorte de garantie de la sécurité de leurs enfants.
Le rapport préconise enfin un meilleur partage de l'espace public, multiplier les voies cyclables, piétonniser davantage les rues, notamment aux abords des écoles, et développer les activités artistiques et culturelles à l'extérieur.
Olivier Sherman, il est 5h12 à Paris et Berlin, 4h12 en temps universel et à Londres.
RFI, toute l'actualité.
Alban Le Prince.
Et merci d'écouter RFI. Vous avez fait le bon choix au programme de ces 20 prochaines minutes. La région de Wolfsburg en Allemagne, elle accueille le siège de Volkswagen, constructeur historique de voitures, et ses 60 000 salariés qui craignent pour la deuxième année consécutive une récession, des fermetures, des licenciements. C'est le reportage international du jour. Peut-on faire une confiance aveugle à l'intelligence artificielle? Peut-elle remplacer l'humain ou seulement lui faciliter la tâche? Débat alors que le Royaume-Uni s'en servirait, selon plusieurs ONG, pour gérer les demandes d'asile. L'invité culture du jour est un monstre du cinéma français. Une palme d'or au Festival de Cannes, deux Golden Globes, deux Oscars. On parle de Claude Lelouch qui sort aujourd'hui son 51e film. Le conseil santé du jour, on s'intéressera aux jeunes intermittents. Est-il aussi bon pour la santé que ce que beaucoup nous disent, notamment sur les réseaux sociaux? Nous le verrons. Et puis le choix de la programmation musicale du jour sur RFI, le percussionniste Kay OJ avec Don't Take My Soul. L'Allemagne sera-t-elle confrontée pour la deuxième année de suite au choc de la récession? L'industrie automobile, premier employeur industriel du pays avec 800 000 salariés et 564 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est particulièrement touchée. Les grands noms du secteur annoncent tous les uns après les autres de mauvais résultats, notamment Volkswagen, numéro 1 en Europe, qui veut fermer 3 usines et réduire de 10% les salaires. 60 000 employés travaillent à Wolfsburg, où se trouve le siège du constructeur, et ils craignent une crise d'ampleur. C'est le reportage signé Nathalie Versieux pour RFI.
Il est presque 14h à Wolfsburg, l'heure du changement d'équipe. Des groupes d'hommes et de femmes sortent, visage fermé, de ce qui ressemble à une bouche de métro. Un écriteau fixé en haut des escaliers indique « Tor 17 », l'entrée 17 de l'usine, à 200 mètres de la gare, et l'une des plus utilisées par les salariés. Samia vient de finir sa journée. Fille d'immigrés tunisiens à la chaîne, cet employé de bureau, doudoune rouge et visage avenant, a connu plus d'une crise chez Volkswagen.
Ich habe nicht so wie jetzt. Es ist jetzt anders. Also kann ich jetzt
Oui, mais ce n'était pas comme maintenant. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi, mais vous voyez, cette collègue, par exemple, je parlais avec elle tout à l'heure, et elle est là depuis 43 ans. Elle va à la retraite cette année. Elle disait qu'elle n'avait jamais vu ça. Bien sûr, il y a toujours des solutions, mais là, ce sont vraiment des solutions violentes, des licenciements. Il faut voir, les gens ont peur, peur pour leur emploi, pour leur sécurité.
Samia s'inquiète notamment pour les salariés des usines d'ex-RDA du groupe des régions où il sera plus difficile de retrouver un emploi. À Wolfsburg, chaque famille tremble depuis que le constructeur a annoncé début septembre vouloir résilier la garantie de l'emploi négociée avec les syndicats. Des dizaines de milliers de postes sont menacés. Trois usines pourraient fermer en Allemagne pour la première fois dans l'histoire du groupe. Devant la porte 17, l'inquiétude est palpable. Franck, la quarantaine, fils et petit-fils d'ouvrier de l'usine, s'apprête à prendre son poste.
Je travaille dans l'atelier des portes. On pose les câbles, la vitre, les isolants tout autour, le rétroviseur. Le rythme, c'est normalement une minute par geste, mais comme la production a diminué, on a baissé. On est maintenant à 2 minutes.
Les négociations sur l'avenir du groupe entre la direction et le puissant comité d'entreprise et le syndicat IG Metall reprendront le 21 novembre dans le stade Volkswagen de la ville, financé par le constructeur. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Cela ne vous aura sans doute pas échappé. Pas un jour ne passe désormais sans qu'une innovation liée à l'intelligence artificielle ne soit annoncée, aussi redoutée que convoitée. Le Royaume-Uni s'en servirait pour gérer les demandes d'asile, trancher sur les candidatures. C'est ce qu'affirment plusieurs ONG de défense des droits des migrants. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondante de RFI à Londres, c'est le groupe militant Privacy International qui fait part de ses inquiétudes concernant un logiciel en particulier.
Oui, ce programme s'appelle IPIC pour Identification et Priorisation des Affaires d'Immigration. Son but, c'est de faciliter la prise de décision concernant les migrants et les demandeurs d'asile susceptibles d'être expulsés. Comment ? En analysant des dizaines de données, comme l'état de santé, l'ethnicité ou le dossier judiciaire. Selon l'ONG Privacy International, le programme digère toutes ces informations et émet une recommandation au sujet de l'individu, en faveur ou non de son expulsion. Le gouvernement britannique aurait commencé à utiliser IPIC autour de 2019-2020 et il fait face depuis à un amoncellement des demandes. La technologie est souvent présentée dans ce contexte comme la solution à des délais qui ne font que rallonger et qui pèsent sur les ressources et les finances publiques.
Mais Emeline, qu'est-ce qui inquiète concrètement les organisations de défense des droits ?
Elles y voient plusieurs problèmes. Déjà, la teneur des données récoltées, en particulier celles qui touchent à la santé. Ensuite et surtout, elles dénoncent un manque de transparence. Privacy International a mis plus d'1 an à obtenir les informations, un droit pourtant inscrit dans la loi ici, et elles s'inquiètent de la manière dont ces informations sont utilisées. Un exemple, toujours sur la santé, l'ancien ministre conservateur de l'Intérieur, James Cleverly, estimait que certains demandeurs d'asile faisaient semblant d'avoir des idées suicidaires pour influencer la décision en leur faveur. Se pose alors la question, l'algorithme peut-il être modifié suivant les positions du gouvernement ? Les associations, pas seulement Privacy International, s'indignent surtout que des décisions aussi importantes qui concernent la vie de plus de 40 000 personnes dépendent autant de la technologie. Des études ont déjà montré que les outils d'analyse présentent des biais discriminatoires similaires à ceux qui existent dans la société. En plus, des erreurs ont pu être constatées, notamment sur l'identité des personnes.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a que l'algorithme qui prend la décision d'accorder ou non l'asile aux réfugiés ? L'humain, est-ce qu'il n'a pas son mot à dire ?
Officiellement, l'algorithme émet une recommandation qui doit faciliter le travail des officiers de l'immigration. Dans les faits, on l'a dit, ceux-ci font face à un nombre de demandes très élevé et n'ont pas toujours les moyens de les traiter en profondeur. Alors bien sûr, il est possible de rejeter la recommandation, mais le logiciel réclame alors une justification détaillée. En bref, il est beaucoup plus simple pour les employés du ministère de suivre les recommandations du logiciel. Or, les demandeurs d'asile ne sont pas toujours avertis que la technologie a été utilisée, limitant ainsi leurs possibilités de recours. Le gouvernement n'a pour l'instant pas souhaité réagir.
Merci beaucoup Emeline Vin, correspondante de RFI au Royaume-Uni. ne pas se souvenir de cette bande originale signée Francis Lai dans le film Un homme et une femme, Palme d'or au Festival de Cannes en 1966, récompensé par 2 Oscars, 1 Golden Globe. L'invité culture du jour sur RFI, c'est Claude Lelouch. À 87 ans, il sort aujourd'hui son 51e film. Finalement, il est au micro d'Elisabeth Le Quéret. Claude Lelouch, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Finalement, c'est l'histoire d'un homme qui se fait la belle. C'est un avocat parisien renommé. Il quitte femme et enfant pour partir sur les routes de France. Il s'appelle Lino et il est joué par Cadmerade.
Oui, 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 c'est un aventurier d'aujourd'hui. C'est un homme qui a envie de retrouver sa liberté. Il a envie de s'offrir une récréation avec lui-même. Il a envie de se retrouver lui-même. Et il part au hasard. Il va rencontrer des personnes merveilleuses, des enfoirés, voilà. Et comme les personnes merveilleuses sont plus fortes que les enfoirés, je pense qu'il va retrouver la lumière, voilà, qu'il avait perdue.
Il raconte des bobards, en fait. Il, oui. Raconte, il s'invente des fausses vies.
Oui, enfin, et c'est un grand avocat. Il a fêté son 100e acquittement. Et quand il rencontre des gens et que les gens lui demandent qui il est, il se met dans la peau des personnages qu'il a défendus. Et ça lui permet comme ça de mesurer la tolérance des gens qu'il rencontre.
Pourquoi vous aimez tant filmer des menteurs ?
Ben parce qu'ils nous font rêver. Ils nous font rêver, puis on ne meurt jamais d'une overdose de rêve. Et on a besoin, dans l'époque qu'on vit, de rêver un peu plus.
Finalement, l'argent n'avait pas d'importance. Finalement, le paradis, c'était l'enfance, oui. Finalement.
Claude Lelouch, Cadmerade, c'est la première fois que vous tournez avec lui. Autour de lui, il y a plutôt les suspects habituels, hein, votre famille de cinéma. Elsa Zilberstein, Sandrine Bonnaire, Michel Bougenat, Françoise Fabian. Des acteurs fidèles avec qui vous avez déjà tourné.
J'aime être entouré par les gens qui ont du talent. Voilà, donc les gens qui ont du talent, je suis content de les revoir. Comme on est content de revoir des gens qu'on aime, voilà.
Claude Lelouch, finalement, c'est votre 51e film. Quand on regarde dans le rétroviseur, et je sais qu'une rétrospective de votre œuvre va avoir lieu bientôt à la Cinémathèque française, comment on se sent ?
Écoutez, on se sent comme un enfant gâté. Moi, j'ai connu une époque où les gens pleuraient, maintenant ils pleurnichent. J'ai connu une époque où ils riaient, maintenant ils ricanent. Voilà. Donc j'apprécie chaque seconde qui passe.
Et quand on a une œuvre, une filmographie aussi impressionnante, comment on fait pour trouver encore l'inspiration ?
Ben, je travaille avec un immense scénariste qui s'appelle La Vie. Est-ce qu'un scénariste aurait eu le culot de dire que l'abbé Pierre aurait eu une vie sentimentale ? Non. Voilà. La Vie, elle...
Et même
elle...
une vie sexuelle de prédateur.
Oui, oui, de prédateur même. Enfin, j'essaye de minimiser les choses, quoi. Pas la peine d'aggraver son cas.
Est-ce que vous pouvez imaginer une vie sans cinéma ?
Je pense que j'aurais aimé faire de la peinture, mais j'aurais aimé aussi raconter des histoires. J'aurais pu, j'aurais bien aimé être le nègre de Victor Hugo.
Ou d'Alexandre Dumas.
D'Alexandre Dumas, voilà. Donc, si vous voulez, non, je pense que j'aurais aimé déjà raconter des histoires.
La Cinémathèque française, je le disais, va vous consacrer bientôt une rétrospective. Est-ce que vous avez grand plaisir à revoir vos films ?
Écoutez, oui, c'est comme si j'allais voir des membres de ma famille. Donc, si vous voulez, non, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il ne faut jamais cracher dans la soupe. Jamais, jamais.
C'est un bon mot de la fin. Claude Lelouch, merci beaucoup.
Merci.
Claude Lelouch pour la sortie aujourd'hui au cinéma de Finalement, un film au casting 5 étoiles, Cadmerade, Sandrine Bonnaire, Elsa Zilberstein ou encore Françoise Fabian et Michel Bougenat.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et c'est l'une des nouvelles tendances, alimentation, que ce soit pour maigrir, ralentir le vieillissement, garder la forme, le jeûne intermittent. Et pour en parler, le professeur Gabriel Perlmutter, chef de service d'hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair à PHP, à Clamart, en région parisienne. Professeur Gabriel Perlmutter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service d'hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair à PHP, à Clamart, en région parisienne. Le jeûne intermittent est-il efficace quand on cherche à perdre du poids ?
Alors, le jeûne intermittent est efficace sur de nombreux paramètres liés à votre santé. Le poids, la pression artérielle, l'équilibre glycémique, le niveau des lipides, l'inflammation, le vieillissement. Mais c'est pas n'importe quel jeûne, c'est très important de savoir comment on jeûne et comment on mange quand on ne jeûne pas. C'est pas juste le jeûne, ça marche ou ça marche pas, et c'est justement tout l'intérêt du livre que j'ai écrit par rapport aux questions que se posent mes patients aux fake news qu'on peut voir en particulier beaucoup sur les réseaux sociaux.
Précisément, quelles conditions réunir avant de modifier son rythme alimentaire? Est-ce qu'il y a par exemple des contre-indications?
Alors oui, le jeûne, comme toute pratique médicale, peut avoir des contre-indications. Vous ne devez pas jeûner quand vous êtes un enfant en pleine croissance. Vous ne devez pas jeûner quand vous vieillissez après 65 ans, notamment. Vous ne devez pas jeûner quand vous êtes une femme enceinte. Vous ne devez pas jeûner quand vous êtes une femme qui souhaite devenir enceinte ou quand vous allaitez. Il y a par conséquent plusieurs raisons pour lesquelles il ne faut pas jeûner, c'est pas pour tout le monde. Aussi, par exemple, une personne qui a un diabète de type 1 ou qui a un diabète de type 2, mais avec des médicaments qui font baisser directement le taux de sucre, doit faire attention quand elle jeûne.
Et donc, consulter. Merci, professeur Perlmutter. Le titre de ce livre, Jeûner en mangeant, publié chez Flammarion. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, on va parler de la pneumonie, première cause infectieuse de mortalité chez l'enfant à l'échelle mondiale. Prévention, prise en charge de cette infection respiratoire aiguë des poumons. C'est à retrouver à 9h10, 1h10, temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci beaucoup Caroline Paré, à tout à l'heure. Musique à présent, le choix de la programmation de RFI aujourd'hui, c'est Kweku of Ghana, plus connu sous le nom de K.O.J. Et après des années de carrière, de multiples collaborations, le Ghanéen qui vit à Sheffield en Angleterre nous propose son deuxième disque, inspiré du High Life, musique emblématique de son pays, Don't Take My Soul, un hymne à ses racines. K.O.J. c'est sur RFI. Bon réveil à vous et merci de nous écouter. I done dawg, try to make it on my own. Live my very best and I won my throne, I know. Reaping all the seas I sow. Counting on my blessing that the Lord control my soul. Even though the lights go low. Even though I never been lost, never felt at home. Oh Lord, carry this load. Oh Lord, tell them leave me alone, alone. Alone. Leave me alone, alone.
Take My Soul sur RFI. K.O.J. qui sera en concert le 22 novembre à Londres, le 30 à Berlin et le 12 décembre à Copenhague. Restez avec nous sur Radio France Internationale. Dans une minute, c'est le retour du Journal Afrique.
World Tour Records et RFI Talent présente BIM en concert. À l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Positive Vodoun, retrouvez le Bénin International Musical sur la scène du Cabaret Sauvage à Paris le 18 novembre à partir de 20h dans le cadre des concerts volants avec Arte. Plus d'infos sur cabaretsauvage.com.
Vous êtes chanteur ou musicien d'Afrique, des Caraïbes ou de l'océan Indien? Vous rêvez de développer votre carrière à l'international? Inscrivez-vous en ligne pour le prix Découverte RFI avant le 20 novembre.
Le lauréat ou la lauréate aura la chance d'être à l'affiche d'un concert diffusé sur RFI et bénéficiera d'une tournée en Afrique et d'une aide à la création.
Retrouvez toutes les étapes et actualités du concours sur prixdécouverte.com et sur Facebook, Insta et TikTok.
En partenariat avec l'Institut français.